François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, cette semaine, dans le flot incessant et tumultueux de l'information, certains personnages médiatiques cherchent à profiter de l'audience qu'ils suscitent pour déformer des faits historiques ou actuels, et ce, dans un but politique clairement affirmé. Vous, qui êtes professeur associé à Sciences Po, vous souhaitiez évoquer trois cas récents qui vous ont frappé, mais aussi blessé, en tant que citoyen et en tant que juif. Alors, ces trois personnes sont Éric Zemmour, Pascal Boniface et Patrick Peloux. Alors, on va commencer par Éric Zemmour. Expliquez-nous en quoi ment-il et pourquoi.
Éric Zemmour, c'est étonnant parce que c'était un excellent journaliste politique, c'est un des meilleurs chroniqueurs politiques des années 80, 90, 2000. Et depuis le début des années 2010, il s'est intéressé à transformer son analyse politique en combat politique personnel. Et d'ailleurs, l'Express, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, a fait sa couverture « Zemmour présidentiable, point d'interrogation ». Et clairement, il se prépare et il se met en position. Sur un sujet très sensible, et très sensible pour l'histoire de France et l'histoire de la persécution des Juifs en France, Zemmour, depuis 2014, égrène un certain nombre de contre-vérités historiques. Il a commencé en 2014 avec le succès de son livre « Le suicide français », où il a commencé à véhiculer ce mensonge historique, qui était pourtant un vieux mensonge historique de la propagande pétainiste, à savoir le régime de Pétain aurait sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français. Alors cela, tout d'abord, il faut le dire, il faut le redire à l'antenne, parce que beaucoup de trop de gens en France commencent à croire ce discours, parce que Zemmour a une vraie audience, hein, vous l'avez vu sur CNews, il arrive à avoir plus d'un million de téléspectateurs chaque fois qu'il passe. Et voilà pourquoi dire que le régime de Vichy, le régime de Pétain, l'État français aurait sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français est faux. Quelques faits, évidemment, il faudrait faire un cours d'histoire de plusieurs heures pour tout démontrer, mais quelques faits les plus saillants. Le premier, c'est que le statut des Juifs du 3 octobre 40 a été passé par le gouvernement de Vichy, dirigé à l'époque par Laval, sous les ordres de Pétain, qui était encore maréchal. Et Pétain, sur statut des Juifs 3 octobre 40, est fait sans que les Allemands ne demandent rien. C'est un statut d'exclusion de la vie économique, politique, sociale des Juifs en France. Et Pétain ne protège pas les Juifs français puisqu'il durcit de sa main et refuse d'exclure de ce statut des Juifs ce qui était prévu. Tous les Juifs dont les aïeux étaient français depuis avant 1860. Il l'aurait de sa main, et on peut le voir au mémorial, où nous gardons l'original de ce statut durci de la main de Pétain. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a rappelé très récemment, justement pour condamner les propos de Zemmour. Deuxième argument historique, la deuxième grande rafle des Juifs à Paris, la première c'est la rafle du billet vert de mai 1941, qui elle, effectivement, n'a touché que des hommes juifs étrangers, mais la deuxième, elle est du 12 décembre 1941 et vise des notables juifs français, la plupart avocats, juges, professeurs, qui sont arrêtés et ils feront partie des premiers convois de déportation. Le troisième fait historique indiscutable, c'est que la plupart des plus de 4000 enfants raflés lors de la rafle du Vel'd'Hiv du 16 et 17 juillet 1942 étaient français, arrêtés sur l'ordre de Laval et de Bousquet, gardés dans le camp français par des gendarmes français de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, et déportés à la demande expresse de Laval, les Allemands ne demandaient même pas. Enfin, à titre plus personnel, 19 membres de ma famille, tous français depuis la Révolution française, et pour beaucoup, anciens officiers et héros de la Première Guerre mondiale, ont été déportés avec la complicité de l'État français.
Alors, François Hellebrun, comment Éric Zemmour fait-il pour développer une telle thèse ?
Alors, il est habile, il est intelligent, il est cultivé. Alors, il s'abrite devant un certain nombre, soi-disant, de bons historiens, mais qui n'avaient pas les bonnes archives, ou de mauvais historiens qui n'ont pas vraiment travaillé. Il reprend à son compte les thèses développées pour la défense de Pétain par Pétain lui-même, dès 1945, et son avocat Izorni. C'est la théorie du bouclier. Pétain était un bouclier pour protéger les Français et De Gaulle a été le glaive. C'est une théorie qui est complètement mise à bas depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années. On sait que c'est totalement faux. Pétain est entré avec joie et bonheur dans la collaboration. Il voulait que la collaboration réussisse et que la France s'attache au régime nazi. Zemmour s'appuie sur des travaux historiques des années 50. Mais ces travaux historiques des années 50, notamment ceux de Robert Aron, n'avaient pas du tout accès aux archives, notamment celles accablantes du commissariat aux affaires juives et celles de la Gestapo. Il reprend surtout, et c'est son argument choc, un travail d'un simple professeur d'histoire de lycée, Alain Michel, dont les travaux sont contestés par tous, oui bien par tous les grands spécialistes historiques de l'époque, à savoir en premier lieu Serge Larsuel, mais aussi Annette Wieberka, Henri Rousseau, Laurent Joly, Tal Brutmann et tant d'autres. Donc, sa thèse historique est complètement délégitimée, niée par l'ensemble des grands historiens. Et d'ailleurs, dans le procès qui lui a été intenté pour négationnisme, Laurent Joly, qui est un des meilleurs connaisseurs du sujet, spécialiste du commerciariat aux affaires juives et de l'État français contre les juifs, est allé témoigner à charge contre Zemmour pour contrer sur le plan historique la contre-vérité de tous les propos qu'il a pu tenir.
Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Éric Zemmour, qui est juif, se lance-t-il dans ce débat ?
C'est effectivement très étonnant. Très étonnant, sachant qu'en plus, Éric Zemmour, en plus d'être juif, a fait sa scolarité, ce qui n'est pas si fréquent, surtout à son époque, dans un lycée juif qui était Yavné. Mais donc, c'est assez étonnant. Alors, je vais citer en fait un extrait du dernier numéro de la revue d'Histoire de la Shoah que j'encourage vos auditeurs à lire, qui s'appelle « Vichy, les Français et la Shoah, un état de la connaissance scientifique ». Et dans la passionnante introduction de Laurent Joly, Laurent Joly se pose cette question-là. Et voilà la réponse qu'il apporte. Pour Zemmour, en effet, la doxa paxtonienne, alors Paxton, pour vos auditeurs, est un des premiers à avoir dénoncé le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs, endossée par nos présidents depuis le fameux discours de Chirac en 1995, a délégitimé les capacités de l'État consubstantiel de son devoir de protection de son peuple à distinguer entre les Français et les étrangers. En termes clairs, le souvenir honteux de Vichy est un handicap pour tout projet politique de discrimination volontariste et systématique à l'égard des étrangers ou des musulmans. Et donc, en fait, Zemmour, c'est pas juste parce qu'il se trompe historiquement, c'est qu'il a un objectif politique et c'est là où c'est dangereux. Il s'est attaqué très violemment, par exemple, dans Valeurs actuelles, en août 2020, à l'émigration à l'islam. Il reproche surtout aux historiens français qui ont démontré la criminalité de l'État français dans la persécution de tous les juifs vivant en France, y compris français, c'est sa haine supposée de l'assimilation française. Il a peur en fait des immigrés et le raisonnement complètement déconnecté de Zemmour, il n'en est pas l'inventeur. National Hebdo, qui est un journal d'extrême droite, très proche du Front National, déplorait déjà dans les années 90 le complexe de la droite française par rapport à Vichy qui l'empêchait de mener une politique radicale contre les immigrés. Mais là, il lui donne un écho exceptionnel dans l'opinion parce que c'est plus National Hebdo qui le dit, c'est... Zemmour dans un bouquin qui s'appelle « Le suicide français » tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ou sur CNews à de nombreuses reprises. Et face à cette entreprise de falsification de l'histoire, destinée à banaliser les crimes de Vichy afin de faciliter l'acceptation de mesures draconiennes contre les immigrés et les musulmans en France, plusieurs associations ont décidé de saisir la justice. Poursuivies récemment en justice pour négationnisme, les juges ont considéré effectivement que les contenus et le sens des propos tenus, que les juifs français ont été sauvés par le maréchal Pétain, relève du négationnisme. Mais comme toujours avec la justice, c'est toujours un peu étrange, dans une pirouette sémantique, ils ne l'ont toutefois pas condamné pour négationnisme. Toutes les parties civiles, dont la LICRA, l'Union des étudiants juifs de France, l'association J'accuse, Marc Nobel, vont en appel pour faire condamner pour ce qu'il est, Éric Zemmour, un dangereux négationniste qui veut effacer le très beau discours de Jacques Chirac de 1995 et de tous ses successeurs, oui tous, reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la persécution de tous les Juifs en France de 1940 à 1944, dont les Juifs français. Et je veux rappeler que 25 000 Juifs de nationalité française ont été déportés de France et morts dans les camps d'extermination.
On va changer de personnage, François Hellebrun, et vous vouliez également relever les derniers propos de Pascal Boniface. Alors, comment lui déforme-t-il la vérité et pourquoi ?
Alors, Pascal Boniface nous a habitués à déformer la vérité sur Israël. C'est son dada, son dada depuis 20 ans, au sein de l'IRIS, pour ceux qui ne connaissent pas ce triste sire. Il dirige un institut de recherche stratégique qui s'appelle l'IRIS, et puis maintenant il a des émissions sur YouTube. Sa dernière émission en date du 16 février, donc hier, c'est « Quoi être Charlie ?». Donc en fait, c'est quoi être Charlie ? En fait, il cherche à démontrer est très tordu, comme souvent avec lui, très tortueux, c'est que, évidemment, c'est monstrueux ce qui est arrivé au caricaturiste de Charlie, à toute l'équipe de Charlie Hebdo, qui a été assassinée par les frères Kouachi dans un attentat islamiste meurtrier. Donc ça, il ne le nie pas. Mais il dit qu'à partir de là, l'horreur a inhibé toute réflexion, on empêche le droit à la critique, il y a une forme de terrorisme intellectuel. Je cite ces mots, hein, c'est vraiment. Il y a un néo-maccartisme qui permet à certains de faire taire ceux qui s'opposent à eux. Il y a des vraies excommunications intellectuelles. Et ceux qui ont critiqué Charlie Hebdo, dont Pascal Boniface, dont Edgar Morin, son grand ami, dont Edwy Plenel, son autre grand ami, sont assimilés aux terroristes et on utilise les victimes de l'attentat pour régler ses comptes. Et donc les premières personnes qui l'attaquent, c'est notre ami Frédéric Ancel, avec qui un vieux différent légitime l'oppose, parce que Frédéric Ancel est un très bon géopolitologue qui ne dit pas d'erreur et de contre-vérité. Il attaque de manière très frontale et très véhémente, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Et Richard Malka, il dit sur Richard Malka s'arrange avec l'héritage de Charlie Hebdo. Il attaque aussi Philippe Val, qui était le patron de Charlie Hebdo à l'époque des caricatures. Il le traite de néoconservateur et il l'accuse d'avoir envoyé Ciné. Effectivement, Philippe Val avait renvoyé Ciné, mais Philippe Val avait renvoyé Ciné pour des dessins antisémites. Il oublie de préciser cela. Il a été un des premiers critiques de Chargy et en fait depuis, il essaye de s'exonérer parce qu'effectivement, il s'est rendu compte qu'avoir critiqué Charlie véhément, d'avoir critiqué avec la meute de loups qu'il y avait en France, notamment emmenée par l'Union des islamistes de France, le mettait un peu en porte-à-faux. Alors maintenant, comme toujours avec Boniface, et c'est là où il rejoint souvent Zemmour, il essaye de se mettre dans la position de victime. On essaye de me faire taire, il y a des lobbies puissants contre moi, mes positions courageuses sur le conflit israélo-palestinien ou sur la guerre en Irak ne sont pas entendues. Et donc, il veut faire à chaque fois le procès de ceux qui justement défendent la liberté d'expression, et qui veulent faire se passer en victime. Mais les victimes, celui qui est protégé par la police aujourd'hui, c'est Richard Malka, c'est pas Pascal Boniface. Celui qui risque d'être tué par les islamistes, c'est Richard Malka, c'est pas Boniface. Boniface ne craint rien, et il a tous les médias qu'il veut. Il a encore porte ouverte sur France Inter, dans les colonnes du Monde, ou même sur les plateaux de télé. Alors, Zemmour et Boniface utilisent en fait les mêmes armes, des contre-vérités historiques pour mener un combat politique et pour se faire passer pour des victimes.
Et alors, pour conclure, François Hellebrun, que pensez-vous des propos de Patrick Peloux accusant Israël d'embargo sur les vaccins pour les Palestiniens ?
Pierre, comme vous l'avez rappelé dans votre journal à l'instant, les contre-vérités, les accusations énoncées par Patrick Peloux contre la campagne de vaccination israélienne participent du même syndrome délétère. Les accusant de ce qui est totalement faux d'embargo à destination des Palestiniens pour la campagne de vaccination. Mais je voudrais souligner une chose, c'est que contrairement à Zemmour et Boniface, Patrick Peloux, alerté par beaucoup de ses amis, a reconnu qu'il avait colporté une contre-vérité, que c'était des mensonges. En fait, c'est des mensonges proférés par la Ligue des droits de l'homme qui, depuis un certain temps, dérive totalement et en pleine déshérence dans son combat antisioniste. Et Patrick Peloux a reconnu son erreur et a salué la campagne exemplaire de vaccination en Israël, je cite, précisant qu'il ne doutait pas de la volonté humaniste de donner en nombre ces vaccins. Et il espère que les Palestiniens vont avoir ces vaccins et surtout que les Palestiniens aussi vont accepter ces vaccins, ce qui n'est pas acquis. Donc, pour conclure, Zola nous l'a appris, la vérité doit toujours être en marche, mais avec des politologues et des hommes de médias comme Zemmour et Boniface, elle recule dangereusement. À nous d'être vigilants.
François Hellebrun, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.